Le maire de Casterbridge. Chapitre 14. Pour la vie de Mrs. Henchard, l'entrée dans la grande maison et la respectable orbite sociale de son mari marqua le début d'un été de la Saint-Martin, qui fut aussi ensoleillé que peuvent l'être de tels étés. Craignant de se voir demander une affection plus profonde que celle qu'il avait au cœur, Henchard s'imposait au moins d'en donner des marques extérieures. Il fit, entre autres améliorations apportées à sa demeure, repeindre en vert clair les barreaux que la rouille rongeait tristement depuis 80 ans, et recouvrir d'une triple couche de blanc les lourdes fenêtres à guillotine et à petits carreaux de style géorgien. Il se montrait pour sa femme aussi tendre que pouvait l'être un homme important, maire et marguillier de sa paroisse. La maison était vaste, les pièces hautes et larges, les paliers. La présence des deux femmes modestes s'y faisait à peine sentir. Pour Elizabeth Jane, cette époque fut triomphale. Elle n'eut jamais rêvé indulgence comparable, liberté pareille à celle dont elle jouissait. La vie calme, aisée, opulente que lui assurait le mariage de sa mère apportait chez elle un grand changement. Elle apprit qu'elle pouvait, sur simple demande, obtenir la pleine possession de parures et d'objets agréables et connut la vérité du proverbe moyenâgeux « prendre, avoir et garder son mot bon à prononcer ». La paix de son esprit lui permit de se développer, et sa beauté s'épanouit avec ce développement. Si talent et savoir lui faisaient hélas toujours défaut, une intuition naturelle lui tenait lieu de connaissance. Avec l'hiver et le printemps, son visage et sa personne tout entière s'arrondissaient en courbes pleines. Les plis douloureux s'effaçaient sur son jeune front, le teint terreux dont elle se croyait dotée pour la vie s'éclaircissait pour faire place à une abondance de choses précieuses, et des feux s'allumaient sur ses joues. Ses yeux gris et pensifs trahissaient parfois même une gaieté malicieuse, mais cette expression s'y faisait rarement jour. La jeune sagesse, tapie dans leurs prunelles, ne s'accommodait guère d'humeur légère. Comme tous ceux qui ont traversé des heures rudes, Elizabeth tenait la légèreté d'esprit pour chose déraisonnable et illogique, tout au plus admissible de loin en loin, comme une folie passagère. Elle avait trop médité les pensées inquiètes pour en perdre l'habitude du jour au lendemain. Elle ne connaissait pas ces hauts et ces bas de l'esprit qui importunent sans raison trop de gens. Jamais, pour paraphraser un poète moderne, jamais ombre n'attristait l'âme d'Élisabeth sans qu'elle en connût l'origine, et sa gaieté présente était proportionnée aux garanties solides que lui offrait l'avenir. Une beauté qui s'affirmait de jour en jour, le bien-être inconnu d'une vie large et la libre disposition toute nouvelle pour elle de quelques sommes d'argent, aurait pu conduire la jeune fille à se rendre ridicule dans sa mise. Mais en fait, nulle part peut-être mieux que dans cette question de la toilette ne se manifestait cette sagesse dont Elizabeth faisait preuve en toute occasion. La réserve est chose aussi précieuse dans le monde des passions que la hardiesse dans celui de l'action, et cette jeune fille naïve avait une intuition naturelle qui touchait au génie. Aussi, soucieuse de n'éclater point en ce printemps-là comme un bouton de fleur d'eau, sut-elle ne pas étaler sur sa personne colifichets et clinquants, comme l'aurait fait à sa place la plupart des jeunes filles de Casterbridge. Son triomphe était tempéré par la circonspection. Les plus belles promesses de l'avenir n'étouffaient pas dans son cœur l'appréhension du soc de la destinée que connaissent les souris des champs et les êtres pensifs qui ont trop tôt souffert pauvreté et oppression. « Jamais je ne montrerai trop d'exubérance, » se disait-elle. « Ce serait inciter le ciel à nous accabler de nouveau et à nous renvoyer les afflictions anciennes. » Nous la voyons donc très sobrement vêtue d'un chapeau de soie noire, d'un manteau ou d'un mantelet de même étoffe et d'une robe sombre. Elle tient à la main une ombrelle qu'elle s'est refusée à orner d'une frange. Les bords en sont simplement ourlés et un petit anneau d'ivoire en retient les baleines. Le besoin d'un tel objet l'étonnait elle-même, mais elle s'était aperçue que l'éclaircissement de son teint et la montée de rose à ses joues avaient rendu son visage plus sensible aux morsures du soleil. Aussi le protégeait-elle, avec la pensée qu'une impeccable netteté était la première des vertus féminines. Henchard se montrait très féru de la jeune fille, qui sortait plus souvent maintenant avec lui qu'avec sa mère. Un jour, elle lui parut si attrayante qu'il laissa peser sur elle un regard critique. J'avais le ruban sous la main et je l'ai arrangé, balbutia-t-elle, en craignant de choquer son beau-père par une garniture un peu éclatante qu'elle arborait pour la première fois. « Oui, oui, bien sûr, » répondit-il de son ton léonin. « Fais comme tu l'entends, ou plutôt suis les conseils de ta mère. Dieu me préserve de trouver rien à redire à ta toilette. » Dans la maison, Élisabeth portait la chevelure divisée par une raie, arrondie d'une oreille à l'autre comme un arc-en-ciel blanc. En avant de cette raie, son front était couvert d'une masse de boucles épaisses, en arrière, ses cheveux soigneusement lissés se nouaient en chignon. Les trois membres de la famille étaient attablés un matin devant leur déjeuner, et Henchard regardait silencieusement, comme il le faisait souvent, cette chevelure de la jeune fille, qui était d'un châtain plutôt clair que foncé. « Je croyais, Elizabeth Jane, tu m'avais dit qu'Elizabeth promettait d'être très brune quand elle était petite, » dit-il à sa femme. « Tu crois ? » fit-elle en tressaillant et en donnant un coup de pied à son mari en manière d'avertissement. Elizabeth, à peine remontée dans sa chambre, Henchard revint sur le sujet. « Parbleu, j'ai failli m'oublier tout à l'heure, mais il me semble bien que les cheveux de l'enfant s'annonçaient comme plus foncés quand elle était petite. » « C'est vrai, mais les cheveux changent tellement, » répondit Suzanne. « Ils foncent souvent, je le sais, mais je ne me doutais pas qu'ils devinssent jamais plus clairs. Aussi, quelquefois. » Et sur le visage de la pauvre femme se fit jour une expression inquiète dont l'avenir devait donner l'explication. Mais cette inquiétude se dissipa quand Henchard poursuivit. « Cela ne vaut que mieux, d'ailleurs. Mais écoute, Suzanne, je veux qu'on l'appelle Miss Henchard et non plus Newson. Bien des gens le font déjà, sans y penser. » C'est son nom légal, après tout. Autant vaut donc en faire une appellation habituelle. Je n'aime pas du tout l'autre nom pour une fille de ma chair et de mon sang. Je vais en faire passer la vie dans le journal de Casterbridge. C'est comme cela que l'on fait ici. Elle n'y verra pas d'inconvénient. Non, oh, oh, non, mais... Décidez alors, fit-il d'un ton péremptoire. Si elle consent, tu dois désirer autant que moi cette rectification. Oui, bien entendu. Il n'y a qu'à le faire si Elizabeth n'y voit pas d'objection. Sur quoi Mrs. Henchard tenta une démarche illogique que l'on aurait même pu taxer d'hypocrisie si son attitude n'avait trahi une émotion profonde et la gravité d'une personne qui cherche de tout son cœur à agir pour le mieux. Elle alla trouver sa fille, qui cousait en haut de la maison, dans le petit salon affecté à son usage, et lui fit part du désir d'Henchard. « Vas-tu y consentir ? Ne crains-tu pas que ce soit manqué au souvenir de Newson maintenant qu'il est mort et disparu ?» « Je vais y songer, maman, » répondit Elizabeth en réfléchissant. Rencontrant Henchard quelques heures plus tard, elle aborda le sujet avec une franchise qui prouvait qu'elle s'était attachée aux pensées suscitées par sa mère. « Tenez-vous vraiment si fort à ce changement de nom, monsieur ? » demanda-t-elle. « Si j'y tiens si fort, mon Dieu, quel embarras les femmes aiment faire à propos d'une vétille ! J'ai parlé de la chose, voilà tout. À ton gré, Elizabeth Jane, je veux être maudit si je m'en soucie. » « Comprends bien que je ne voudrais surtout pas que tu dises oui pour me faire plaisir. » L'affaire en resta là, il n'en fut plus question, et aucune décision ne fut prise. Elizabeth Jane resta désignée sous le nom de Newson, et non pas sous son nom légal. Cependant, le gros commerce de blé et de foin d'Henchard prenait sous la direction de Donald Farfrae une importance qu'il n'avait pas encore connue. Les affaires, qui procédaient primitivement par brusques secousses, avançaient maintenant sur des galets huilés. C'en était fini du vieux système viva voce d'Henchard, où tout dépendait de sa mémoire et où les marchés ne se concluaient qu'en paroles. Lettres et registres avaient remplacé les « entendus », les « accordés », et, comme dans tous les cas de progrès semblables, le pittoresque raboteux des vieilles méthodes avait disparu avec leurs inconvénients. La situation de la chambre d'Elisabeth, haut juchée dans la maison et commandant par-dessus le jardin la vue des magasins et des greniers à foin, lui permettait de suivre de près tout ce qui se passait dans ce domaine. Elle voyait que Donald et Henchard étaient inséparables. Quand ils marchaient côte à côte, Henchard posait familièrement la main sur l'épaule de son compagnon, comme s'il avait été son jeune frère, et s'y appuyait si lourdement que la frêle silhouette du jeune homme pliait sous le faix. Parfois, un mot de Donald provoquait chez Henchard un véritable tonnerre d'hilarité, cependant que l'autre restait très calme et gardait un air d'innocence. Dans sa vie un peu solitaire, Henchard prisait évidemment autant l'amitié du jeune homme que ses utiles conseils. La claire intelligence de l'Écossais provoquait toujours chez le marchand de blé la même admiration qu'à la première heure de leur rencontre, et la piètre estime où il ne se cachait pas de tenir le galbe, le poids et la vigueur du frêle farfrai était plus que contrebalancée par l'immense respect qu'il professait pour son cerveau. L'œil observateur de la jeune fille lui montrait bien que l'affection de tigre témoignée au jeune homme par Henchard et son constant besoin de l'avoir à ses côtés traduisait souvent une tendance à la domination. Le maire savait, il est vrai, réfréner cette tendance dès que Donald donnait des marques d'impatience. Un jour qu'elle regardait les deux hommes debout sur le seuil de la porte percée entre la cour et le jardin, elle entendit l'Écossais exprimer le regret que leur habitude de sortir ensemble à pied ou en voiture enleva une partie de son utilité à Farfrae, dont les yeux auraient mieux secondé son patron dans les coins où il ne se trouvait pas. « Le diable les emporte !» s'écria Henchard. « Je me moque du monde. J'aime avoir un compagnon avec qui parler. Allons, venez souper avec moi, et ne pensez pas trop à un tas de choses si vous ne voulez pas me rendre fou. » Lorsqu'Elisabeth sortait avec sa mère, elle voyait souvent l'Écossais les regarder avec un singulier intérêt. Leur rencontre aux trois matelots n'expliquait guère une telle curiosité, puisque Farfrae n'avait pas levé les yeux lorsque la jeune fille était entrée dans sa chambre. D'ailleurs, c'était la mère plutôt que la fille qu'il regardait, au désappointement ingénu, à demi inconscient, et bien excusable en tout cas, d'Elisabeth. Elle ne pouvait donc attribuer un tel intérêt à ses propres charmes, et supposait que cette curiosité n'était qu'apparente, simple façon sans doute qu'avait M. Farfrae de tourner les yeux. Tout orgueil mis à part, elle n'aurait pu comprendre la véritable raison de l'attitude de Donald et savoir qu'Henchard avait confié à son nouvel ami le secret des épreuves passées de la femme pâle et douloureuse qui marchait à côté d'elle. Ses propres conjectures à ce sujet se bornaient à de vagues soupçons sur les relations passées d'Henchard et de sa mère, en qui elle croyait voir d'anciens amoureux séparés par une querelle. Casterbridge, on l'a déjà dit, était une ville déposée en bloc dans un champ de blé. Elle ne possédait pas de faubourg, au sens moderne du mot, c'est-à-dire de région intermédiaire où se pénètrent ville et campagne. Elle se dressait au milieu des terres fertiles d'alentour, avec des lignes nettes et tranchées, comme un échiquier sur le tapis vert d'une table. Le garçon de ferme assis sous une meule d'orge pouvait lancer une pierre dans la fenêtre de l'employé de bureau, les moissonneurs faisaient, du milieu des épis, signe à un ami debout sur le coin du trottoir. Le juge en robe rouge, qui condamnait un voleur de moutons, entendait sa sentence soulignée par des « bêhés » qui flottaient dans l'air, au passage du reste du troupeau. Et, lors des exécutions, la foule se pressait juste en face de la trappe, dans un pré d'où l'on avait expulsé des vaches pour faire place aux spectateurs. Les champs en bordure du haut de la ville appartenaient à des fermiers qui vivaient dans le quartier de l'Est, appelé « Durnover ». Les meules de blé y surplombaient les vieilles rues romaines et adossaient leurs marges à la tour de l'église. Des granges à toit de chaume verdi, à entrée haute comme les portes du temple de Salomon, s'ouvraient directement sur la rue principale. Il y en avait une pour 5 ou 6 maisons. Ce quartier était peuplé de citadins qui passaient leurs heures dans les labours, de bergers à l'étroit dans les murs d'une ville. Une rue de fermiers, une rue administrée par un maire et son conseil, mais toute sonore du bruit des fléaux, du blé sautant dans les vannes ou du lait coulant dans les seaux, une rue qui n'avait rien d'urbain, tel était le quartier de Casterbridge qu'on nommait Durnover. Henchard faisait naturellement de grosses affaires dans cette pépinière, dans ce nid tout proche de petits fermiers, et ses charrettes se dirigeaient souvent de ce côté-là. Un jour, comme on se préparait à rentrer du grain d'une de ses fermes, Elisabeth reçut un mot qui la priait de se rendre sans tarder dans un grenier de Durnover. Sachant que c'était là qu'Henchard prenait livraison de son blé, la jeune fille supposa que le mot avait trait à l'affaire et ne prit que le temps de mettre son chapeau pour courir à l'endroit désigné. Placé dans une cour de ferme, le grenier était juché sur des piliers de pierre assez hauts pour que l'on pût s'engager sous eux. Les portes de la cour étaient ouvertes, mais Elisabeth n'y aperçut personne. Elle entra, cependant, et attendit. Elle vit bientôt un homme s'approcher de la porte. C'était Donald Farfrae. Il leva les yeux sur l'horloge de l'église et pénétra dans la cour. Une inexplicable timidité, un désir sans doute de ne pas se trouver seule en face du jeune homme, poussèrent Elisabeth à grimper dans le grenier par l'échelle de meunier et à s'y cacher avant que Farfrae ne l'eût vue. L'Écossais s'avançait. Il se croyait seul, et sentant quelques gouttes de pluie qui commençaient à tomber, il vint se mettre à l'abri à l'endroit même où s'était tenue la jeune fille. Il s'adossa contre un des piliers et se disposa à la patience. Il attendait manifestement quelqu'un. Était-ce donc Elisabeth? Et dans quel but? Il consulta sa montre, puis tira de sa poche un billet tout semblable à celui qu'elle avait reçu elle-même. La situation devenait épineuse, et chaque minute la rendait plus embarrassante. Il lui semblait absurde à Elisabeth de se montrer à la porte du grenier, juste au-dessus de la tête du jeune homme, et de descendre devant lui l'échelle, comme un enfant qui vient de se cacher. Elle attendait toujours. Voyant un tarare à portée de sa main, elle en tourna tout doucement la manivelle pour tromper son impatience. Un flot de balles de blé lui vola au visage, couvrit son manteau et sa robe, se nicha dans sa fourrure. Farfrae devait avoir entendu la machine, car il leva les yeux et gravit les degrés de l'échelle. « Ah, c'est Miss Newson, » fit-il en jetant les yeux dans le grenier. « Je ne vous savais pas ici. Je suis venu au rendez-vous et je suis tout à votre service. »« Moi aussi, Monsieur Farfrae, » balbutia Elisabeth. « Mais je ne savais pas que ce fût vous qui vouliez me voir, sans quoi. Moi qui voulais vous voir? Oh non! Ou du moins, je crains qu'il n'y ait méprise. Ce n'est pas vous qui m'avez prié de venir ici et qui m'avez écrit ce mot ?» Elisabeth montrait son billet. « Non, je n'aurais jamais songé à rien de pareil. Mais vous, ne m'avez-vous pas écrit? Ce n'est pas votre écriture ?» Et il montrait à son tour le papier qu'il avait reçu. « Pas du tout. Vraiment ? Eh bien, il y a quelqu'un qui veut nous voir tous les deux. Nous ferions peut-être bien de rester encore un instant ici. » Cette pensée les décida à prolonger leur attente. Elisabeth affectait un air de tranquillité trop marqué, et les jeunes Écossais s'empressaient de sortir du grenier chaque fois qu'ils entendaient un pas, pour voir si le passant allait entrer et leur expliquer la raison de ce rendez-vous. Ils regardaient, de l'autre côté de la cour, les gouttes d'eau glisser de fétu en fétu sur une meule de paille avant de tomber sur le sol. Mais personne ne venait, et la pluie commençait à dégoutter du toit du grenier. « On ne viendra pas, » dit Farfrae. « C'est peut-être une farce, et il est bien dommage de perdre ainsi notre temps quand il y a tant à faire. » « C'est une mauvaise plaisanterie, » déclara Elisabeth. « C'est vrai, Miss Newson. Nous entendrons sans doute parler un jour de cette histoire et apprendrons le nom du farceur. Je ne vais pas m'en tourmenter, d'ailleurs. Mais vous, Miss Newson ?»« Oh, je n'en suis pas très fâchée, » répondit-elle. « Moi non plus. » Le silence retomba entre les jeunes gens. « Vous devez avoir envie de retourner en Écosse, Monsieur Farfrae ?» demanda bientôt Elisabeth. « Oh non, Miss Newson, pourquoi y retournerais-je ? C'est la chanson que vous avez chantée aux trois matelots, cette chanson sur l'Écosse et le foyer qui me le faisait croire. Vous paraissiez en sentir si profondément les paroles que nous étions tous de cœur avec vous. » « Oui, j'ai chanté ce soir-là, en effet, mais, Miss Newson... » La voix de Farfrae prenait des inflexions musicales comme chaque fois qu'il parlait avec conviction. On peut bien éprouver un instant l'effet d'une chanson, en avoir même des larmes plein les yeux, et oublier aussitôt qu'on l'a fini tout ce que l'on a ressenti pour ne plus y penser de longtemps. Oh non, je ne veux pas retourner là-bas. Mais cela ne m'empêchera pas de vous chanter ma chanson, quand cela pourra vous faire plaisir. Je la chanterai volontiers ici. Je vous remercie bien, mais je crois qu'il faut que je parte, qu'il pleuve ou non. « Je le crois aussi. Mieux vaudrait ne pas parler de cette farce, Miss Newson, et n'y pas faire attention. Si la personne qui nous a joué ce tour vous en dit un mot, soyez aimable pour lui ou pour elle, comme si vous ne lui en gardiez nulle rancune. Ce sera la meilleure façon d'empêcher le malin d'en rire. » Les yeux du jeune homme se posaient sur la robe d'Elisabeth, toute semée encore de glumes de blé. « Vous êtes couverte de poussière et de saleté. Vous ne vous en êtes peut-être pas aperçue, » fit-il, avec un accent de parfaite délicatesse. Cela ne vaut rien pour les vêtements de les laisser mouiller dans cet état-là. La balle pénètre dans le drap et abîme tout. Laissez-moi vous aider, il faut souffler. » Elisabeth ne disait ni oui ni non, et Donald se mit à souffler derrière sa tête, sur le côté de sa chevelure, dans son cou, sur son chapeau et sa palatine. La jeune fille le remerciait chaque fois. Elle fut bientôt débarrassée, mais Farfrae, qui avait surmonté la gêne des premiers instants, ne semblait nullement pressé de mettre fin à la situation. « Ah, maintenant je vais aller vous chercher un parapluie, » proposa-t-il. Elle refusa cette offre, sortit de leur abri et s'éloigna. Farfrae se mit lentement en route derrière elle, et il regardait d'un air pensif la silhouette qui décroissait dans le lointain et sifflotait doucement l'air en passant par Canobie.